autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour nous interroger sur un rituel, une intervention chirurgicale qui concerne plus d'un milliard de garçons et d'hommes sur la planète, la circoncision. Depuis quand, pourquoi et comment les humains que nous sommes ont-ils décidé, pour des raisons religieuses, symboliques, initiatiques, de pratiquer l'ablation du prépuce? Comment expliquer la diversité de cette pratique, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, et surtout pourquoi cette intervention s'est-elle autant répandue et banalisée, désormais justifiée pour des raisons hygiéniques, médicales et prophylactiques qui restent à démontrer. C'est toute l'histoire et nos histoires de circoncision sur lesquelles s'interroge notre invité, le médecin et bioéthicien franco-libanais Roland Tombe, qui vient de publier aux Presses universitaires de France dans la collection Que sais-je, Histoire de la circoncision, pour tenter d'éclairer cette énigme de l'histoire de la chirurgie et de l'humanité, autour de la question pourquoi refaire l'histoire de la circoncision et qu'est-ce que cela dit de nous, tous et toutes. Bienvenue. Soulia, chant traditionnel de cérémonie de circoncision à Madagascar, pour vous accueillir, Roland Tombe. Bonjour.
Merci, bonjour, bonjour.
Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour être en direct avec nous sur RFI autour de cette troublante et brève histoire de la circoncision que vous publiez au PUF dans la collection Que sais-je. Alors, que savons-nous en effet de cette pratique archaïque dont l'origine se perd vraiment dans la nuit des temps? Comment ce rituel religieux, symbolique, s'est-il diffusé dans toutes les sociétés, ou presque, hein, pas dans toutes, mais tout de même universellement sur la planète? Et pourquoi justifie-t-on aujourd'hui la circoncision pour des raisons de santé, médicale ou prophylactique? C'est autant le médecin dermatologue que vous êtes, Roland Tombe, doyen de la faculté de médecine de l'université Saint-Joseph à Beyrouth, que le bioéthicien que vous êtes également, membre de plusieurs comités internationaux de bioéthique. Il s'est intéressé au sujet, en fait c'est en travaillant sur une thèse que vous êtes en quelque sorte tombé, j'ai envie de dire, sur cette impensée. Alors vous vous dites, Roland Tombe, l'une des plus anciennes énigmes de l'histoire de la chirurgie, c'est ça la circoncision?
Oui, tout
aussi.
À fait. Oui, tout à fait, ça reste une énigme. Moi j'ai beaucoup travaillé le sujet, comme vous dites, j'avais fait une thèse de philosophie et d'éthique sur les enjeux éthiques de la circoncision. Et là, je ne pouvais pas ne pas rechercher les sources et voir un peu toute l'histoire de la circoncision. D'où ce petit livre dont vous venez de parler, qui fait une espèce de panorama de l'histoire de la circoncision, qui se perd, comme vous dites, dans la nuit des temps, puisque ce n'est pas seulement dès l'Antiquité, mais probablement avant, dès la préhistoire. On ne sait pas pourquoi, qui a eu l'idée un jour de prendre un enfant ou même un adulte et de lui exciser, de lui enlever le prépuce. C'est vrai que ça se retrouve dans beaucoup de civilisations.
Les premières traces, c'est quoi? C'est chez les Égyptiens?
Les premières traces qu'on voit, parce qu'il y a des traditions, des beaucoup de civilisations qui n'ont pas de tradition écrite, ni d'autres. Mais les premières traces qu'on voit, c'est dans une tombe de Saqqara, en Égypte, on voit quelque chose qui ressemble à une circoncision. Certains égyptologues ne sont pas d'accord, mais il y a presque un consensus pour dire que c'est les traces d'une circoncision. Vous disiez que ça s'est répandu. Oui, ça s'est répandu beaucoup. On trouve des traces en Afrique, on trouve des traces en Australie. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des régions du monde qui ont été préservées, c'est-à-dire entre guillemets, je dis préservées. La vallée de l'Indus, la Chine, le Japon n'ont jamais connu ce phénomène. L'Amérique latine non plus. Mais on verra tout à l'heure que sous l'impulsion de la médecine américaine, il y a eu une diffusion qui s'est faite dans d'autres régions du monde.
C'est ça, et un regain aujourd'hui, et c'est là-dessus que le bioéthicien s'interroge, sur ces raisons, soi-disant médicales ou prophylactiques.
Voilà.
Je rappelle bien à nos auditeurs et auditrices, on ne remet absolument pas en question les convictions religieuses, symboliques et rituelles.
Notre but n'est pas du tout de remettre en question. Nous avons tout le respect pour les traditions religieuses, évidemment, mais on se pose des questions sur cette mode qui est venue d'Angleterre d'abord, puis des États-Unis après, pour faire une circoncision de routine et surtout avec des justifications d'ordre médical, d'ordre prophylactique. Je parlais de l'Extrême-Orient tout à l'heure. Il y a deux pays en Extrême-Orient où on circoncit très massivement. C'est la Corée du Sud et les Philippines. Et tout ça à cause de l'influence américaine, alors que ce n'est pas le cas ailleurs en Extrême-Orient. Donc vous voyez, ça va très loin. Il y a une médecine américaine, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale et même avant, qui s'est exportée et qui fait que dans beaucoup de pays, on croyait que c'était plus smart, plus trendy, plus à la mode.
C'est ça. Or, ce n'est pas une opération anodine, on y reviendra.
En chirurgie, il n'y a pas d'opération anodine. En médecine, il n'y a pas d'opération anodine. Nous enseignons à nos étudiants en médecine qu'on donne un remède quand il y a une maladie. Alors, quand il n'y a rien, Pourquoi opérer ?
Grande question, pourquoi opérer ? Pourquoi circoncire ? Alors revenons un peu peut-être sur l'étymologie même du mot circoncision, circonscrire.
Oui, circoncire, c'est un peu en latin, latin quand même, c'est couper autour. Couper autour. Et en français, on a fait une espèce de partage sémantique. On parle de circoncision chez les garçons, on parle d'excision chez les filles. Puisque c'est vrai, mais en anglais, on utilise le même mot, circumcision, à la fois pour les garçons et pour les filles. Donc,
c'est coupé autour. Il y a cependant des degrés entre l'excision chez les filles.
Dans l'excision, il y a beaucoup de degrés. Il y a beaucoup de degrés. Ça va depuis une excision très superficielle sur le capuchon du clitoris, jusqu'à une excision des lèvres, jusqu'à une. Il y a des choses, des mutilations horribles qui se font, notamment chez les filles. Mais même dans la circoncision, il y a des degrés, puisqu'on a vu que chez les anciens Égyptiens, du moins dans une partie de la population, on pense chez les prêtres et dans une certaine aristocratie, on n'en est pas tellement sûr. Ce n'était pas une excision radicale comme on l'a vu après dans le judaïsme, c'était juste une incision dorsale du prépuce. Donc il y a des degrés aussi dans la circoncision.
Dans la circoncision, il y a des degrés aussi. En français, ça sonne aussi avec circonscrire. Vous parlez de corriger aussi. Est-ce que l'homme serait le seul mammifère qu'il faudrait corriger?
C'est ça la question. Il y a un grand sociologue qui a dit: est-ce que l'homme est le seul mammifère qui mérite d'être corrigé? C'est vrai que chez les autres mammifères, on n'y a pas pensé.
On n'y a jamais pensé. Autour de la question pourquoi et comment refaire l'histoire de la circoncision, présente et obligatoire dans deux religions monothéistes, mais aussi, vous l'avez dit, dans nombre d'autres traditions. Je propose un premier éclairage du côté du judaïsme et de la philosophie avec le neuroscientifique qui est aussi philosophe, Lionel Nakache, et qui nous propose son interprétation.
Je serais évidemment très intéressé de connaître toutes les formes d'herméneutique ou d'interprétation qui ont été proposées à l'acte de circoncision à travers le temps, les civilisations et les religions, et à travers mon expérience personnelle en étant juif, où souvent il y a cette notion que circoncire revient à faire l'apprentissage du manque, qu'en réalité un statut d'incomplétude, que l'individu n'est pas complet, et que dans cette incomplétude, il y a justement un effort à la fois d'humilité et de co-construction du monde. Donc on voit que les choses peuvent se déployer dans différentes dimensions, et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres interprétations, donc je serais très intéressé de savoir quelles sont-elles.
Vous pouvez répondre ou réagir.
Oui, non, mais c'est ce que je viens d'entendre est fort intéressant. Mais il y a tellement d'interprétations. Vous savez, il y a des interprétations d'ordre psychanalytique, d'ordre sociologique, d'ordre anthropologique. Et puis aussi, la circoncision n'est pas la même, parce que l'histoire, je veux dire, dans le temps et dans l'espace, il y a beaucoup de formes de circoncision.
Le geste est remarqué depuis les origines, on ne sait pas depuis quand, mais sous différentes formes, très
déjà
variées.
Déjà, dans le judaïsme, si on revoit les textes anciens, la racine, il s'agissait probablement d'un rite prénuptial qui s'est transformé après, comme c'était le cas dans beaucoup de populations cananéennes autour. C'était un rite prénuptial. D'ailleurs, c'est très en sémitique ancien, le mot, la racine hatan ou khatan, désigne à la fois la circoncision et le mariage. Et en hébreu, vous avez hatuna, hatan, le marié, etc. Et en arabe, vous avez exactement ça. Vous avez khatana, c'est-à-dire faire alliance matrimoniale avec quelqu'un. Mais khatana veut dire circoncire. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a probablement une origine prénuptiale. On la voit dans un texte, de l'Exode, où Sippora, la femme de Moïse, circoncit son fils, met le sang sur Moïse, qui était poursuivi par Dieu, et lui dit « Maintenant, tu es mon époux de sang », alors qu'elle venait de faire une circoncision. Donc, il y a ce jeu de mots, tu es mon époux de sang. Donc, il y a ça, mais il y a beaucoup d'autres explications.
Parce que ça fait couler le sang, la circoncision.
Ce qui est très intéressant, c'est que dans le judaïsme, la circoncision est devenue un rituel qui marque l'entrée dans la communauté. Donc, Brit Mila, il y a le mot alliance. Il y a pas seulement la coupure, c'est une alliance, le signe de l'alliance. D'ailleurs, ça revient plusieurs fois dans la Bible. Et ça, c'est devenu néonatal, mais strictement néonatal, c'est-à-dire le huitième jour. Il y a la circoncision de tous les mâles. Donc, c'est très intéressant. Alors, des explications, vous savez, c'est très facile d'apporter des explications a posteriori.
Bien sûr.
Mais si on lit beaucoup de textes aussi dans le Deutéronome et dans d'autres endroits de la Bible hébraïque, il dit « Tu me donneras ton nouveau-né » et le nouveau-né de tous les animaux. Certains prennent le mot « donné » dans le sens radical du terme, dans le sens premier. Est-ce que c'est un sacrifice atténué? Est-ce que c'est une forme de rachat de faire une circoncision, le fait qu'elle ait lieu le huitième jour, le jour où on rachète tout le reste, peut-être. Dans mon livre et dans ma thèse, j'expose les différentes théories. Je n'en embrasse aucune, mais c'est toujours très, très intéressant de confronter.
Et ce qui est intéressant et passionnant dans cet ouvrage, dans cette histoire de la circoncision parue au PUF, dans la collection Que sais-je, c'est vraiment la diversité, effectivement, des manières de pratiquer la circoncision, mais surtout de tout ce qui s'y rattache. Là, on se rend compte que ça peut être prénuptial, ça peut être prénatal, postnatal,
rite de passage dans beaucoup de populations africaines. C'est un rite de passage. C'est vers 14-15 ans, un rite de passage dans les populations australiennes aussi. Pour entrer dans la communauté adulte, il y a une circoncision qui doit se faire et dans beaucoup de populations.
D'où le fait que cette circoncision soit pratiquée à des âges très divers, mais aussi les explications sont elles-mêmes très diverses et que c'est aussi, vous le disiez à l'instant, peut-être une manière de ne pas sacrifier ou de faire couler le sang pour ne pas sacrifier.
Tout à fait.
Ce qui veut dire qu'au fond, cet acte très étrange, on a intérêt à le questionner. C'est effectivement très étrange que de circoncire ses enfants.
C'est très étrange quand on y pense. En fait, dans nos sociétés, c'est un acte qui est un peu banal. On se dit, bon, c'est banal, mais quand on s'y arrête un peu et qu'on voit qu'il y a eu l'idée d'aller, et surtout quand ça se passe en plus chez un nouveau-né qui n'a rien demandé, en fait, qui on n'a pas demandé son consentement, c'est vrai que c'est un acte qui interroge. Dans beaucoup de sociétés aussi, c'est un rite de fertilité, donc ça c'est très intéressant.
De fertilité.
Oui, dans beaucoup de populations africaines, c'est un rite de fertilité. Même dans la Bible, on a quelques relents comme ça, où les arbres sont circoncis. En fait, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est du pain béni pour les psychanalystes, parce qu'il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits sur la circoncision, à commencer par ceux de Freud, qui en a parlé très, très longtemps. Freud, qui est interpellé à plusieurs niveaux, en tant que père de la psychanalyse, en tant que juif. Bref, c'est très, très intéressant de voir. Mais là encore, j'insiste, et vous avez bien fait d'insister sur la diversité. Et puis, il ne faut pas cantonner ça dans certaines religions. Par exemple, prenons le cas de l'Égypte. Les musulmans en Égypte, comme les coptes, sont circoncis. Et quand on leur pose la question, ils disent que c'est plus propre. Et pareil, les femmes égyptiennes, la fréquence de l'excision chez les femmes égyptiennes est ahurissante. Et c'est toujours pour les mêmes raisons, de propreté. Mais je crois que c'est des choses qu'on a inventées récemment, parce qu'on ne peut pas imaginer que dans l'Antiquité, c'était plus propre à l'époque, il n'y avait aucune antisepsie, c'était plus propre d'aller faire un geste chirurgical.
Au fond, ce qui est très, très étonnant, c'est qu'on cherche aujourd'hui peut-être à justifier cet acte. Pourquoi? Et là, il n'y a pas de réponse. Sinon, pourquoi est-ce que les hommes, un jour, ont décidé de pratiquer cet acte-là? Il y a plein de raisons possibles. On en trouve toujours des nouvelles, et pas toujours les meilleures qui soient, parce que quand c'est symbolique, quand c'est culturel, quand c'est religieux, il n'y a rien à dire. Mais par contre, quand ce sont des raisons soi-disant médicale. Là, il y a beaucoup à dire et vous allez beaucoup nous en dire, Rolanton. Mais oui, pour l'heure, je propose de nous arrêter en musique sur le continent africain où la circoncision, vous l'avez dit, est une pratique courante pour des raisons religieuses, notamment pour les musulmans, mais pas seulement. On y revient juste après avoir écouté Kafolé, chanson sur la circoncision, écrite et interprétée par le musicien et compositeur malien Habib Koité sur RFI.
Kafolé. Kabirimbemba lutilo Gafole kabirimama lutilo Gafole funelu toro moma megemba Diolu mamegemba
Gafole
Jalolu di wolu ma simfolo Di wolu ma megemba Soninke remelu ma simfolo Di wolu ma megemba Balolu mo di wolu ma simfolo Mamo ni manante no la sasa No molu wilite son Mamo, no bolu vilite son.
Kafolé, mama lutilo. Kafolé di wolu mamegemba.
Kafolé, Habib Koité sur RFI, le musicien malien chante la circoncision autour de la question pourquoi et comment refaire l'histoire de la circoncision, une des plus anciennes énigmes de l'histoire de la chirurgie. Ça, c'est vous qui le dites et qui l'écrivez, Roland Tombe.
Oui, oui, je voudrais m'arrêter sur le côté festif aussi de la circoncision.
Mais oui, bien sûr.
Parce que dans beaucoup de cultures, je pense au Maghreb, la circoncision. Vous savez, en islam, la circoncision n'est pas, n'a pas un côté canonique comme elle l'a dans le judaïsme. La circoncision n'est jamais mentionnée dans le Coran, jamais. Elle est mentionnée dans les hadiths, mais pas du tout dans le Coran. Et il n'y a pas d'âge précis pour la circoncision. Donc, alors qu'on disait que dans le judaïsme, c'est vraiment le huitième jour. Et alors, dans l'islam, il y a une diversité de pratiques, diversité de périodes. Au Maghreb, c'est généralement chez les petits-enfants. Il y a parfois des fêtes qui ressemblent à des véritables fêtes de mariage.
C'est ça, autour de la circoncision.
Autour de la circoncision. Chez les Turcs, les jeunes Turcs, c'est entre 7 et 9 ans. Je les ai déjà vus en Turquie. Avant la circoncision, ils sont habillés en prince. Et il faut quitter des bonbons partout, etc. Donc, il y a un côté festif de cette circoncision. Et là, j'aimerais insister sur ce que vous avez dit. Faire la part de la circoncision de routine, qu'on ne s'explique pas, et la circoncision dite religieuse, qui appartient à certaines traditions religieuses, mais pas que. Il y a des populations animistes en Afrique qui ne sont pas chrétiennes, pas musulmanes, pas juives, et qui pratiquent aussi une forme de circoncision chez les jeunes. Donc ça, c'est très, très intéressant de voir que ça n'est pas, c'est pas la propriété d'une confession.
C'est ça. Et à quel point c'est universel? Alors à ce sujet, justement, je vous propose d'écouter l'éclairage depuis le Sénégal, depuis Dakar, de l'astronome Maram Kéré, brillant scientifique, attaché lui aux traditions musulmanes, qui nous apporte justement son éclairage sur la circoncision vue de Dakar.
nous avons grandi avec cette pratique et qui est intimement liée en fait à la culture musulmane par rapport à notre religion. Et c'est juste intéressant de voir qu'avec le temps, les choses ont évolué et ne sont plus strictement liées à la religion, mais à un aspect, c'est devenu une recommandation médicale. Ce n'est pas juste les musulmans aujourd'hui. Il y a des personnes qui peut-être adoptent cette pratique pour des raisons médicales.
Il y a un rite particulier ici au Sénégal autour de la circoncision, des mots particuliers peut-être ?
Alors c'est accompagné d'une séance d'initiation en fait de l'enfant pour une sorte de passage de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte. Donc les âges par contre ça varie. Il y a des personnes qui la pratiquent assez tôt, vers 5 ans, 6 ans, c'est d'habitude l'âge qu'on utilise ici. Dans des zones beaucoup plus reculées, ça peut être un peu plus en retard, vers 10 ans ou plus. Et on voit aussi paradoxalement de plus en plus des gens qui le font à la naissance. Ça s'accompagne toujours de cette cérémonie d'initiation dans la tradition musulmane, en fait, où les enfants sont regroupés très souvent. Si c'est dans une grande famille, on choisit les enfants qui ont le même âge. Et c'est l'occasion donc pour les adultes de les avoir pendant un mois sous leur surveillance et leur donner les règles de bon comportement, de politesse envers les adultes, comment se tenir en société, ainsi de suite. Donc c'est un rite d'initiation.
Un rite d'initiation pour Maram Kéré qui nous rappelait aussi que quand on a partagé avec des amis cette période ensemble, on est lié pour la vie. Voilà. Il nous parlait aussi de ça.
Je comprends tout à fait. Et dans certaines tribus africaines, c'est exactement le cas. Il y a toute une classe d'âge qui est circoncise en même temps. Il y a une certaine fraternité qui lie tous ces gens-là. J'ai beaucoup insisté sur le fait que les justifications, genre maintenant médicales, et ça, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, et de propreté, d'hygiène et surtout médicale prophylactique, c'est des justifications qui viennent a posteriori. Je veux dire, maintenant, on dit oui, et maintenant tout le monde s'y met. Non, c'est faux, parce que la mode médicale de la circoncision a commencé à la fin du XVIIIe siècle.
Alors là, c'est un moment incroyable de votre livre. Moi, je veux dire que je trouve ça vraiment extrêmement choquant et troublant. À la fin du XVIIIe siècle, on passe sur le fait que, rapidement, que le christianisme n'a pas parlé de la circoncision. Enfin, en tout cas, ce n'était pas le propos. Il s'est même détaché.
C'est détaché, parce que c'est très intéressant de voir qu'il y a eu débat dans l'Église naissante entre ceux qui voulaient conserver les usages juifs et les autres. Paul, qui était un juif, un juif imbu de rabbinisme, avait décidé un jour de reprendre quelque chose qui existe dans l'Ancien Testament, dans la Bible, où on parle de circoncision du cœur.
C'est ça.
Et le prophète Jérémie, à plusieurs reprises, dit que la circoncision du cœur est plus importante que la circoncision du corps. Donc, Paul a recyclé, si j'ose dire, et a donné une dimension théologique importante. Et de ce fait, a pu accueillir dans la nouvelle religion beaucoup de ces Grecs et de ces Romains pour qui la circoncision heurtait, mais vraiment, leurs critères esthétiques, leurs critères éthiques, leurs critères philosophiques. Les Grecs et les Romains considéraient la circoncision comme quelque chose d'abominable. Ils considèrent la circoncision comme une mutilation grave. Et non seulement, à certaines périodes, parce que ça a changé, la circoncision était passible de la peine de mort, parce que c'est considéré comme une mutilation injustifiée. Donc, mais à d'autres moments, pour les Juifs, la circoncision avait été admise, surtout à l'époque romaine.
Mais c'est quand même très intéressant, c'est aussi des histoires de notre humanité. C'est-à-dire les Grecs et les Romains qui refusaient absolument considérer ça comme une mutilation. Ils
trouvaient que le pénis nu, qui n'était pas recouvert, était indécent. Ils trouvaient que c'était le comble de l'indécence, et ça a posé beaucoup de problèmes aux Juifs hellénisés qui ne pouvaient plus aller au gymnase, qui ne pouvaient plus aller au bain, etc. Il a fallu, on a même créé une intervention chirurgicale qui a été une décirconcision, qui était même un célèbre médecin, Sels, qui est un grand médecin de l'époque, il a décrit, on l'a son texte, comment décirconcire, c'est-à-dire faire porter des poids pour étirer le prépuce restant pour qu'il puisse se rallonger et pour couvrir à nouveau le prépuce.
Très ingénieux.
Et d'ailleurs,
Saint-Paul
en parle, il dit que ceux qui ne sont pas circoncis, qui ne se fassent pas circoncis, circoncire et ceux qui sont circoncis qu'ils ne se fassent pas décirconcire. C'est écrit dans Paul et c'est à la lumière
c'est
de ça.
C'est extraordinaire et donc on voit bien aussi le christianisme religion universelle qui dit on accueille tout le monde, on n'a plus besoin d'être circoncis.
Oui.
Et ce que vous révélez entre guillemets, parce que moi vraiment je ne le savais pas, c'est la manière dont la circoncision médicale est revenue. Mais d'abord, avant d'être médicale, 18e siècle, c'est pour des raisons.
18e siècle, des raisons pseudo-médicales,
puritaines en fait, totalement
puritaines. Des raisons
puritaine.
De puritanisme pur. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont eu l'idée que la... Enfin, non, il faut dire qu'avant ça, c'était précédé par des théories médicales et dont le grand héros a été le docteur Tissot, qui est un docteur suisse, qui a été félicité par Voltaire, par Rousseau, par le roi d'Angleterre, par le pape, pour son écrit, son fameux livre sur la masturbation, où il décrit sur des centaines de pages tous les méfaits de la masturbation qui est la mère de toutes les maladies.
C'est ça.
Donc, la masturbation étant la cause de toutes les maladies, Tissot parlait juste de masturbation. Il y a une folie masturbatoire. On s'est mis à empêcher, à trouver toutes sortes de stratagèmes pour empêcher les enfants et les adolescents et les autres de se masturber, d'espèces de ceintures de chasteté. On est arrivé même dans certains dortoirs à faire des cloisons qui séparaient la partie inférieure du corps de la partie supérieure dans certains dortoirs.
Pour empêcher les garçons
publique,
de se masturber.
Pour empêcher les garçons de se masturber. Donc, il y avait cette folie de la masturbation. Et donc, la masturbation est passée du registre, religieux, où c'était considéré comme un péché, au registre médical, où c'était considéré comme une maladie. Donc, on a vraiment changé de registre. On est passé donc, du péché à la maladie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un rituel, enfin une prescription qui était une prescription rituelle, qui était la circoncision, qui est passée elle aussi du registre religieux au registre de la chirurgie, parce qu'on s'est dit la circoncision est l'arme ultime contre la masturbation.
Bon, ce qui est complètement fou.
C'est complètement stupide, mais là encore, ils y ont cru. Ils y ont cru. Vous avez des tas d'articles. Si on suit la presse médicale anglaise et surtout américaine du 19e siècle, et alors. Mais dans des journaux très sérieux qui existent jusqu'à maintenant, dans le Lancet, dans le JAMA, dans le New England Journal of Medicine, des articles qui disent que la circoncision guérit certaines paralysies, etc. Des enfants paralysés, on les circoncis, ils se mettent à marcher. On a peine à croire à tout ça. Des arguments tout à fait extravagants. Donc, la masturbation est devenue à la fois une arme curative et une arme préventive.
Et donc ça, c'est vraiment un espèce de retour en force de la circoncision pour des raisons insensées.
Extraordinaire, complètement insensée. Et il y avait cette maladie qui s'appelait l'irritation réflexe ou réflexe neurosis qui disait que l'irritation d'une certaine partie du corps pouvait agir sur une autre partie du corps. Donc l'irritation au niveau du pénis, si on lève cette irritation au niveau du pénis, parce que c'est le prépuce qui est la cause d'irritation au pénis, je dis ça avec beaucoup de guillemets.
C'est pas vrai.
Évidemment,
hein.
Donc c'est pas vrai. Donc en levant ça, bon... Bah, avec le temps, au cours du 19e siècle, les gens n'y ont pas beaucoup cru. Parce qu'en disant qu'en enlevant une partie, la seule partie qui bouge dans le pénis, ça n'empêchait pas la masturbation, évidemment. Puis les médecins se sont rendus compte que les théories qui avaient cours sur la folie masturbatoire, ça n'avait plus beaucoup de succès. Le réflexe neurosis, tout le monde s'est rendu compte que c'était une supercherie avec laquelle la médecine officielle a beaucoup cru. Donc il faut, nous autres médecins, moi je suis doyen de la faculté de médecine,
mais oui, c'est ça,
je veux dire que dans la médecine aussi il y a des modes, il faut faire très très attention. Moi quand j'étais gamin, la mode était à l'amygdalectomie. On a enlevé les amygdales à tous les enfants, à titre préventif.
Pour qu'il n'y ait pas trop d'angine.
Pour qu'il n'y ait pas trop d'angine. Maintenant on le fait plus parce qu'on trouve que c'est complètement stupide. Donc vous voyez, en médecine aussi il y a des modes. Et peu à peu... Donc la circoncision, excusez-moi, est restée, mais il fallut d'autres justifications. Donc la masturbation, ça marche plus.
C'est un peu ça. La masturbation, on n'y croit pas. Donc les raisons vraiment d'hygiène,
on n'y croit plus du tout. Évidemment.
Est arrivé le SIDA.
Non, bien avant.
Bien avant.
Tous les cancers. Il y a eu la phobie des cancers. Donc la circoncision, arme ultime contre le cancer du pénis.
Est-ce que vous avez une idée
contre
pourquoi
le cancer de la prostate?
Mais oui, c'est fou.
Contre le cancer du col de l'utérus. Oui, parce que la mode aux États-Unis, c'était de comparer des populations juives à des populations non juives. Mais il n'y avait pas que ça. C'est des, biais de, c'est des biais de comparaison. Parce qu'il y a des populations qui sont plus éduquées que d'autres et des populations qui sont plus propres que d'autres. Il y a de l'alcoolisme dans une population qui n'existe pas dans, dans une autre. On s'est rendu compte aussi que toutes ces comparaisons, ce n'est pas raison. Et
Est-ce que vous comprenez pourquoi, et on va y venir tout de suite avec les derniers épisodes en date, c'est autour du sida, Roland Thombe, pourquoi est-ce qu'au fond, c'est la circoncision qui sert toujours, enfin, finalement, on justifie toujours, je ne parle pas des raisons religieuses, on est bien d'accord,
les raisons religieuses, on les a mises de voilà, côté, mais encore que c'est très intéressant de parler
C'est intéressant de les voir, de les considérer. De les voir,
parce que là, on a fait un amalgame entre les raisons religieuses et les raisons non religieuses. Vous savez qu'il y a quelques années, en Allemagne, un tribunal de Cologne a décidé d'interdire la circoncision en Allemagne. Ça fait un tollé extraordinaire, et même Angela Merkel a dû s'en mêler personnellement, elle a fait une déclaration, dire je ne voudrais pas que l'Allemagne soit le premier pays au monde qui interdise la circoncision. Bon, c'était pour elle. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans tous les pays scandinaves, sous l'influence des écologistes, et etc., pour dire pourquoi ces nouveau-nés voulaient vouloir imposer ça. Donc,
La question est intéressante.
Il faut même faire les différences, encore une fois, entre le registre religieux et le registre de circoncision de routine, pour laquelle la pratique demeure, mais la justification change. Avant le sida, il y a eu
Attendez, on va s'arrêter là-dessus. La pratique demeure, mais la justification change. C'est-à-dire qu'au fond, on continue à encourager médicalement, avec tous les guillemets possibles, la circoncision, en trouvant la masturbation, et puis ensuite les cancers, et ensuite
les maladies sexuellement transmissibles.
Les maladies sexuellement transmissibles, et puis le sida, où plein d'études différentes ont produit des résultats tout à fait différents. Pour certains, il fallait être circoncis, pour d'autres, non. Je vous propose, à ce sujet, d'écouter un petit extrait d'un documentaire qui a été diffusé récemment sur Arte, réalisé en Allemagne par Inza Hocken. Alors, c'est plutôt un documentaire à charge contre la circoncision. Nous, on n'est pas à charge, ni pour, ni contre. C'est pas ça le propos. Mais en tout cas, ce documentaire a le mérite de poser les bonnes questions. Il s'intitule « La circoncision, une ablation qui pose question ». On en écoute un extrait et vous réagirez ensuite, Roland Thombe.
Un homme sur trois dans le monde est circoncis. L'ablation du prépuce est le plus souvent pratiquée dès l'enfance pour des raisons religieuses, culturelles ou médicales. C'est l'opération la plus fréquente chez les garçons.
On dit qu'avec la circoncision, on enlève jusqu'à 50% de la peau sensible du pénis selon la radicalité de l'intervention.
Mais de plus en plus de médecins dénoncent aujourd'hui un trop grand nombre d'opérations superflues.
On a tendance à banaliser, à dire que c'est une intervention légère. Il faut que ça change.
En Afrique, en particulier, des millions de jeunes garçons sont circoncis au nom de la prévention du sida.
J'ai été circoncis à 7 ans.
À l'école, le maître nous a dit « Si vous ne vous faites pas circoncire, vous resterez des enfants. »
Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en la matière font débat.
La protection associée à la circoncision, c'est 0,0. Absolument nul.
Vous confirmez, Roland Thombe, il n'y a pas de protection.
C'est fort intéressant, non, il n'y a pas de protection. Et même, je dirais que c'est dangereux de dire aux gens que si vous êtes circoncis, vous êtes immunisé contre le sida. Il y a certaines organisations qui ont même utilisé le mot vaccin, mais ça, c'est complètement fallacieux et c'est même dangereux. On sait quelles sont les protections qu'il faut prendre.
C'est le préservatif.
C'est le préservatif, encore et surtout le préservatif.
C'est ça,
on ne faut pas tourner autour. Ce qui est très intéressant, dans cette campagne de l'OMS.
Oui, ça, c'est que l'OMS a recommandé en Afrique.
Seulement en Afrique.
C'est très bizarre. La circoncision.
Vous savez, moi, j'ai beaucoup de réserves et je rejoins notre ami, le docteur Garen, sur ce point. Pourquoi en Afrique ? En Afrique, on a montré qu'il y avait une superposition entre les populations qui circoncisaient par rapport à celles qui ne circoncisaient pas et le taux de HIV. Donc on disait que parmi les populations qui circoncisaient, il y avait moins de HIV. Mais on n'a pas fait la même chose entre les États-Unis et le Canada. Le Canada circoncit beaucoup moins que les États-Unis, mais il y a beaucoup moins de sida qu'aux États-Unis. Donc vous voyez, moi j'ai toujours peur d'une attitude un peu, excusez-moi le terme, colonialiste.
Ah, carrément.
Peu, parce que qu'on vient comme ça, on détient une certaine vérité et on veut exploiter cette vérité. C'est vrai qu'il y a eu des études multicentriques. Afrique, il y en a eu au Kenya, il y en a eu ailleurs, qui ont montré qu'il y avait un taux de protection parfois chez les hommes. Il y a eu des études en Ouganda qui ont été arrêtées parce que les femmes n'étaient pas protégées, donc ça c'est quand même grave. Et il y a eu d'autres études, il y a une méta-analyse qui a prouvé que chez les homosexuels, ça n'apportait aucune protection. Moi je crois qu'on n'a pas le droit de mettre dans la tête des gens, si vous êtes circoncis, vous êtes protégé. D'ailleurs, le pays au monde, le pays occidental où il y a le plus de HIV au monde, c'est les États-Unis, et c'est le pays occidental où il y a le plus grand taux de sida. Il y a le plus grand taux de sida et il y a le plus grand taux de circoncision. Moi, je me demande
donc
pourquoi
ne faisons pas d'amalgame. Et pourquoi est-ce qu'on a demandé ça uniquement, d'ailleurs, une recommandation uniquement pour l'Afrique? C'est très étrange.
Vous savez, c'est très intéressant parce que c'est passé en Afrique. On a commencé à le faire chez des adultes. Puis on a trouvé que ça ne mordait pas toujours. On s'est mis à le faire chez les enfants. Il y a eu un grand tollé parce que ni les parents étaient consentants. Souvent, on les prenait de force. Et donc, je trouve que c'est des pratiques qui ne doivent pas. Maintenant, l'OMS a rétropédalé et ils le font après 15 ans. Mais encore une fois, l'OMS, au début de la pandémie de sida, il nous disait que les masques ne servaient à rien. Et puis après,
la pandémie de Covid.
Au début de la pandémie de Covid, on nous disait que l'OMS disait que les masques ne servaient à rien. Puis l'OMS
donc
a changé d'avis.
Il faut faire attention à ce qu'on nous dit.
Faire très attention. Écoutez, je crois que les hommes et les femmes sont des hommes et des femmes où qu'ils soient. Moi, encore une fois, j'ai dit, mon livre fait la différence. Je n'ai pas de recette. Je n'ai pas de réponse
bien
à toutes
sûr,
ces interrogations. Je pense que j'ai le mérite d'avoir posé beaucoup, beaucoup de questions. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de réponses. Mon livre a été très bien reçu à la fois dans des pays musulmans, en Tunisie, au Liban, même en Israël. J'ai eu une des recensions qui était très, très positive. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a une justification d'aller circoncire à tour de bras.
Au fond, la grande question, c'est
de se dire... Des populations qui ne le demandent pas.
C'est ça. Et pourquoi, et en tant que bioéthicien, pourquoi est-ce qu'on circoncide des enfants sans leur demander leur avis? Quand ce sont des raisons symboliques, religieuses, filiales, culturelles, il n'y a rien à dire là-dessus. En tant que bioéthicien, quand il n'y a pas ces justifications-là, au fond, pourquoi est-ce qu'on cherche toujours une justification? C'est ça peut-être aussi la grande question, Roland Tombe.
Oui, c'est la grande question à laquelle c'est sur ça que je termine mon livre en disant que cette procédure demeure et les justifications changent avec le temps. On les a vues pendant 3 siècles. On a chaque fois inventé des choses nouvelles.
C'est ça.
Je pense que c'est une habitude qui est très ancrée dans l'humanité, qui est vraiment très, très, très vieille et très ancrée. Cette
et donc difficile à interroger, finalement.
Difficile à interroger. Et puis, il y a des choses. Et l'excision, maintenant. L'OMS, heureusement, ouais, l'OMS considère que l'excision chez les femmes est une mutilation. On parle de mutilation génitale féminine. Mais là aussi, c'est très, très intéressant. Il y a des populations. Il faut savoir que l'excision n'existe jamais seule. Elle n'existe que dans les pays où il y a une circoncision masculine.
Ah, ça va ensemble.
Ça va ensemble. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Il y a des tas de pays, par exemple, je parle du Proche-Orient, par exemple. Il y a la circoncision chez les garçons. Il n'y a pas d'excision. Donc, c'est très intéressant. Dans les pays comme le Soudan, l'Égypte, etc., ça va de pair. Et dans des pays, maintenant, actuellement, au 21e siècle, des pays comme l'Indonésie, il y a des campagnes d'excision chez les filles, alors que l'OMS mène des campagnes contre l'excision, vous voyez.
Là donc, encore, attention,
il y a un mélange entre l'idéologie, la religion, on mène la médecine. Je crois que le champ de la médecine et celui de la religion ne vont pas ensemble.
Autour de la question pourquoi et comment refaire l'histoire de la circoncision, on continue de s'interroger avec vous, scientifiquement, médicalement, historiquement, géographiquement, mais aussi humainement et symboliquement sur cette question qui touche précisément à notre intégrité humaine. En clin d'œil à votre ville, Beyrouth, à votre pays, le Liban, on vous propose d'écouter l'icône libanaise, la voix magnifique de Fairouz, que vous aimez beaucoup, évidemment, comme nous tous, remixée cette fois-ci par Lofi sur RFI.
I'm
L'inoubliable Férouz, remixé par le musicien libanais Lofi sur RFI. C'est pour vous, Roland Tombe, et le titre de la chanson.
Voilà, le titre, c'est Adesh Kenfinas.
Ah, magnifique chanson de Férouz. Oui. Je rappelle que vous êtes médecin, dermatologue, bioéthicien, doyen de la faculté de médecine de l'université Saint-Joseph de Beyrouth et membre de plusieurs comités de bioéthique internationale, et que vous venez de publier donc cette histoire de la circoncision. Un petit que sais-je inédit à tous les sens du terme, paru au PUF, aux presses universitaires de France, et dans lequel vous nous rappelez à la fois l'origine impossible à déterminer, aussi lointaine que notre humanité, de la circoncision, et le danger, non pas de la pratiquer symboliquement, culturellement, religieusement, mais que ça devienne une banalité, que ça devienne un acte médical normal. Alors avant... Oui,
je voulais ajouter qu'il y a différents... Tout à l'heure, on a parlé de ce qui s'est passé en Allemagne. Je crois qu'interdire, comme ça a été proposé en Allemagne et dans certains pays scandinaves, en Autriche aussi, en Islande, dans d'autres pays, c'est un peu dément. Je veux dire, interdire la circoncision dément, il y a certaines communautés pour qui c'est vraiment vital et ça fait partie de leur tradition. Et je comprends très bien.
De leur culture, de leur filiation, bien sûr.
Mais il y a eu... une façon d'encadrer, c'est-à-dire dans les autres cas. Par exemple, en Afrique du Sud, la circoncision est interdite sauf pour motif religieux. Donc, sauf pour motif religieux. En Angleterre, la circoncision est acceptée s'il y a consentement du père et de la mère. Parce que souvent, il n'y a pas le consentement des deux parents. Donc oui, là encore, je disais, dans ces campagnes de l'OMS, souvent, il y avait consentement d'aucun des deux parents. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'éthiquement, ce n'était pas acceptable. Donc, il ne faut pas stigmatiser. Il ne faut pas interdire, mais il faut essayer de comprendre. Il y a ce qu'on appelle, Max Weber parle de l'éthique de conviction et il parle de l'éthique de responsabilité. Au nom de l'éthique de responsabilité, je crois qu'il faut expliquer, qu'il faut s'interroger. Et c'est ce qu'on fait, mais sûrement pas interdire de façon comme ça.
C'est ça, comment s'interroger, comment rester sur le fil autour de cette question de la circoncision. C'est pas facile, d'autant qu'on l'a dit, cette pratique est parfois, c'est pas vraiment une pression, mais une obligation culturelle parfois aussi, dans de nombreux pays, notamment sur le continent africain, où on prête à la circoncision. Alors il y a aussi d'autres vertus, notamment celle du plaisir. Là, c'est un étudiant burundais, Trésor Kazama, résident à Paris, qui l'explique à notre journaliste pigiste, Inès Messaï. On écoute Trésor.
Le terme circoncision n'a jamais eu de traduction littérale en Kirundi, parce que c'est une sorte de coutume qui est venue avec les gens qu'on appelle les Swahili. Les Swahili, c'est un peuple qui est beaucoup plus musulman. Donc le terme circoncire en Kirundi, ça se dit aussi la moula. Donc d'une certaine manière, qui veut dire rendre musulman. Ça vient de la religion, ça vient de cette religion islam, mais les gens qui le font, c'est pas forcément des musulmans. La preuve en est que, par exemple, moi, je suis circoncis et pourtant, je suis pas musulman. En fait, ça s'est beaucoup plus amplifié avec notre génération. C'est vraiment devenu une sorte de mode. Il est venu un peu dans la tradition où on a intégré le fait qu'une personne un peu circoncise ressentirait beaucoup plus de bonheur ou de plaisir pendant les rapports. Et c'est comme ça que cette pratique, qui avant vraiment était réservée à cette communauté swahili, s'est répandue dans toute la communauté burundaise. C'était venu à une époque où un mec circoncis, les gens qui n'étaient pas circoncis, ils ne prenaient pas la douche avec les autres. On se moquait gentiment, mais ça finissait par devenir un peu méchant. C'était beaucoup aussi une question d'hygiène. Même les filles, ils se disaient qu'un mec non circoncis, ça veut dire un mec sale qui ramène tous les EMST dans la petite peau qui reste. C'est comme un coffre-fort pour les microbes. Donc c'est plein de clichés qui se développaient autour de ce petit pot.
Plein de clichés, comme le dit joliment Trésor, qui se développaient autour. Tout ça, ce
témoignage est intéressant parce qu'il reprend tous ces clichés. Je trouve que c'est très, très intéressant.
Et sur la question du plaisir,
voilà, la question
par
du
exemple,
plaisir, il y aurait beaucoup à dire. Vous savez, aux États-Unis, où il y a des polémiques surtout, vous avez ceux qui sont pour l'avortement, ceux qui sont contre, on en parle encore, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle, et là, ça ressurgit encore, les pro-life, pro-choice. Il y a aussi ceux qui sont pour la circoncision, ceux qui sont contre. Il y a des activistes anti-circoncision qui sont parfois extrêmement violents. Et eux, ils ont deux chevaux de bataille. D'abord, le non-consentement de l'enfant, et ça se comprend. Et la deuxième chose, c'est la réduction du plaisir. Parce qu'il faut savoir qu'en enlevant le prépuce, on enlève plus de 50% de la zone érogène chez l'homme. Ça, c'est médical. Et il faut savoir aussi que quand le gland est à nu, il va se kératiniser. C'est un épithélium qui va se kératiniser. Et là aussi, il y a une diminution du plaisir. Le plaisir n'augmente pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on lit Maïmonide, le grand philosophe juif arabe, et qui a écrit son fameux guide des égarés, où il dit, on lui demande, mais pourquoi la circoncision, alors que Dieu a créé l'homme parfait, il répond, l'un des motifs de la circoncision, c'est de diminuer la cohabitation, d'affaiblir l'organe sexuel, afin d'en restreindre l'action et de laisser en repos le plus possible. Il ne s'agit pas d'une imperfection morale, d'une imperfection physique, mais d'une imperfection morale. Donc, c'est pour réduire, etc., que la circoncision affaiblisse la concupiscence et diminue la volupté. C'est une chose dont on ne peut douter. Ça, c'est Maïmonide.
Donc, on peut faire dire à la circoncision, tout est au contraire, finalement.
Ce jeune homme dit que ça augmente, alors que les médecins disent que ça diminue. Mais même le témoignage du grand rabbi, du grand Maïmonide, un énorme philosophe, dit que c'était dans le but de réduire. Il y a d'autres philosophes
aussi. D'où l'intérêt de se replonger à la fois dans les mythes, dans les symboles, dans la variété, dans cette histoire, si longue histoire de la circoncision, pour dire, au fond, nous, les humains, nous construisons nos mythes. Et on a tendance à construire la réalité médicale, ce qui, là, n'est pas vrai.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en face de ces mythes religieux ou de ces mythes tribaux, etc., il y a des mythes médicaux. C'est-à-dire qu'il y a un rituel. La médecine s'est inventée un rituel et la médecine s'est inventée de nouveaux mythes. Bon, ils changent avec le temps, mais comme je disais, le rituel persiste et qu'il y a une mythologie médicale aussi. Donc là, il faut faire très attention.
Très attention aux mythes. Et j'imagine, c'est vraiment le mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, que le bioéthicien que vous êtes, qui participait à des comités de bioéthique internationale, doit tout le temps se coltiner des sujets aussi complexes que celui-là, dans lequel il faut respecter les mythes et les symboles, mais ne pas soutenir les mythes médicaux ou les mythes scientifiques, pour le coup.
Ce qui est intéressant, la bioéthique, c'est il n'y a pas de bioéthique quand c'est blanc ou noir. La bioéthique, c'est quand c'est gris et qu'il faut prendre des décisions où les deux pans de la décision peuvent être relativement équivalents. Et donc là, je crois que pour la bioéthique, c'est un sujet. Mais le problème, c'est que c'est un sujet qui fâche parce qu'il y a des retombées religieuses, politiques et autres. Donc, il faut être très, très prudent et très, très vigilant quand on en parle.
Ce que vous êtes, à la fois prudent, vigilant, mais en même temps...
Et bienveillant.
Ah oui, absolument, très bienveillant, mais aussi éprouvant par moments et bouleversant. Histoire de la circoncision que vous signez Roland Tombe aux Presses universitaires de France dans la collection Que sais-je. Et vous revenez quand vous voulez nous parler d'éthique ici comme ailleurs. Merci Roland Tombe,
merci à
bientôt.
Vous. Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain pour de nouvelles interrogations, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Badiol à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci pour votre fidélité, votre interactivité. On lit tous vos messages, même si on ne les diffuse pas tous. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt lors de retrouver les informations.